1990, en 1990 et 1999, par Raymond Kurzweil, qui est l'un des fondateurs du courant transhumaniste, qui s'intitule « Machine intelligente, l'âge des machines intelligentes » ou « Machine spirituelle, l'âge des machines spirituelles ». Donc, on était déjà, en fait, dans ces années-là, alors même que les dispositifs technologiques et industriels étaient complètement différents, mais il y avait déjà cette volonté, disons, d'attribuer à ces dispositifs technologiques des capacités mentales, psychiques, qu'on a bien du mal à définir déjà dans le cas des humains, comme l'intelligence ou l'esprit. Et si vous regardez aujourd'hui, par exemple, la lettre qui avait été publiée en 2023, la lettre ouverte qui avait été publiée par une sorte de think tank qui s'appelle le Future of Life Institute, qui est un think tank transhumaniste. C'est une lettre ouverte qui avait fait pas mal de bruit parce qu'elle avait été co-signée notamment par Elon Musk et par toutes sortes d'autres experts du numérique, qui demandait une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Au moment même où Elon Musk en fait développait lui-même sa propre IA, mais disons que c'était arrivé 2-3 mois après le lancement de ChatGPT. Et dans cette lettre ouverte, les auteurs en fait reprenaient ce vocabulaire en disant « Attention, nous sommes face à des esprits numériques qui vont constituer des menaces pour l'humanité, qui vont dépasser les capacités humaines, etc. » Donc toujours dans ces discours, une logique d'anthropomorphisation de la machine et corrélativement, disons, une volonté de comparer ou de mettre en compétition l'humain et la machine. Or, moi, cette manière de parler, disons, pour l'instant, et de penser, elle me pose problème, évidemment, parce que c'est un certain rapport ou une certaine relation au dispositif technologique qui a été longuement critiqué, notamment par des philosophes de la technique dans les années 50-60, en particulier par un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a écrit un livre qui s'appelle « Du mode existence des objets techniques », qui est publié en 1958, donc qui est publié en fait 2 ans après la conférence de Dartmouth, qui est c'est pas vraiment une conférence, en fait c'est une sorte de séminaire, qui est le séminaire qui a lancé en fait le projet d'intelligence artificielle, donc qui réunissait des ingénieurs, des informaticiens, des personnes qui travaillaient aussi dans le champ des sciences cognitives. Peut-être vous en avez entendu parler, souvent on date l'expression d'intelligence artificielle de cette conférence-là, donc 1956, 2 ans après aux États-Unis, bien sûr, 2 ans après, Simondon, qui est un grand lecteur de la cybernétique étant le champ technoscientifique qui a inspiré notamment les sciences cognitives et l'intelligence artificielle, Simondon publie sa thèse de philosophie, et dans l'introduction de la deuxième partie de sa thèse, qui s'intitule donc « Du mode d'existence des objets techniques », Simondon insiste sur le fait que nous vivons en fait dans une représentation complètement mythique de la machine, nous prenons les machines pour des doubles des humains, et nous leur attribuons toutes sortes de propriétés anthropomorphiques, parce qu'en fait, nous ne comprenons pas comment elles fonctionnent. Donc, pour Simondon, cette tendance à anthropomorphiser les machines, elle est liée à un manque de culture technique, en fait, hein. Il écrit la chose suivante, je vais vous lire le petit extrait puisque je n'ai pas les slides. « Nous voudrions précisément montrer que le robot n'existe pas, qu'il n'est pas une machine, pas plus qu'une statue n'est un être vivant. Pourtant, la notion de la machine qui existe dans la culture actuelle incorpore dans une large mesure cette représentation mythique du robot. Un homme cultivé ne se permettrait pas de parler des objets ou des personnages peints sur une toile comme de véritables réalités ayant une intériorité, une volonté bonne ou mauvaise. » Ce même homme parle pourtant des machines qui menacent l'homme comme s'il attribuait à ces objets une âme et une existence séparées, autonomes, qui leur confèrent l'usage de sentiments et d'intentions envers l'homme. Et donc, cette manière de se rapporter à ces machines, informatiques, cybernétiques ou algorithmiques, eh bien, pour Simondon, elle nous empêche de comprendre les schèmes techniques, les opérations techniques qui sont à l'œuvre dans ces dispositifs. Et pour lui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pensée de Simondon, mais Simondon est souvent connu pour dire « Notre aliénation aux technologies ne vient pas de la technologie, elle vient de notre méconnaissance de la technologie, du fait que nous ne comprenons pas les technologies. » Et donc, pour Simondon, en fait, cette anthropomorphisation, elle est un symptôme d'aliénation, tout simplement. Et donc, il y a un deuxième philosophe qui m'intéresse sur ce point-là aussi, qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était le directeur de la thèse de Gilbert Simondon, il y a 2 thèses, donc de la deuxième partie de sa thèse, disons, sur le mode d'existence des objets techniques, là, dont je vous parlais à l'instant. Et Canguilhem, donc, c'est aussi un philosophe, disons, des sciences de la technique, en particulier plutôt intéressé à la question de la biologie du vivant, de la médecine. Il était médecin également. Et Canguilhem, lui, en 1980, fait une conférence qui s'intitule « Le cerveau et la pensée », dans laquelle il s'interroge justement sur ses manières de parler des technologies, hein, et il soutient donc que nous utilisons et que nous abusons d'expressions non pertinentes telles que, je le cite encore une fois, cerveau conscient, machine consciente, cerveau artificiel ou intelligence artificielle. Ces métaphores, dit-il, qui sont nées chez les scientifiques de l'usage légitime de modèles heuristiques ou de simulateurs sophistiqués, donc qui ont été utilisés par des scientifiques qui prenaient modèle sur le cerveau humain ou qui prenaient modèle sur la cognition humaine pour fabriquer leurs machines, ont été habilement repiqués sur des lieux communs publicitaires au stade industriel de l'informatique. Un modèle de recherche scientifique a ainsi été converti en machine de propagande idéologique, je cite toujours Canguilhem, notamment pour dissimuler la présence de décideurs derrière l'anonymat de la machine. Donc là, Canguilhem pose une question un peu différente. C'est plus seulement le fonctionnement technique ou les opérations, les schèmes technologiques qui nous sont masqués par ce rapport anthropomorphique à la technologie, c'est aussi tout simplement le rôle des humains qui sont derrière et la responsabilité de ces humains. Il est assez évident, par exemple, aujourd'hui, que beaucoup de personnes dissertent sur le fait de savoir si les IA génératives peuvent penser, si elles pourront bientôt avoir des émotions, si elles peuvent faire des mathématiques, si elles peuvent faire de la poésie, de la philosophie, etc. Mais en fait, ce qui est assez évident, c'est que si vous posez une question, par exemple, à un système comme ChatGPT ou comme Grok, qui sont des systèmes d'IA générative américains, et que vous posez une question à un système comme DeepSeek, qui est un système chinois, que vous lui posez une question géopolitique, par exemple, qui concerne Taïwan ou je ne sais quoi, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Pourquoi ? Bah parce que ces machines, en fait, elles sont pétries des idéologies de ceux qui les ont produits, qui les ont développés, qui les vendent, ou en tout cas, qui, s'ils ne les vendent pas directement, qui en tirent un profit commercial, et qui exercent aussi, par leur intermédiaire, un pouvoir idéologique. Donc là, on voit bien, hein, comment l'interrogation sur la conscience des machines peut servir à dépolitiser, en fait, les usages technologiques quotidiens. Et puis, le dernier penseur qui m'intéresse beaucoup aussi dans cette tradition française de la philosophie de la technique pour penser l'intelligence artificielle, c'est Bernard Stiegler. Donc, c'est un penseur plus contemporain qui a écrit à partir des années 90, qui est aussi héritier de Canguilhem et de Simondon. Sa réserve à l'égard du terme d'intelligence artificielle est encore un peu différente. Lui, il considère que cette manière de parler des dispositifs en leur attribuant en fait un esprit, des capacités mentales, psychiques, intellectuelles, nous empêche de nous poser la question de savoir ce que ces machines nous font à nous, à nos propres esprits, en fait, à nos capacités mentales, psychiques, intellectuelles, à nous. Et précisément, sa thèse, hein, la thèse de Stiegler, c'est qu'elles nous font forcément quelque chose. Hein, parce que pour Stiegler, justement, l'esprit n'est pas situé dans nos têtes, hein, inscrit dans nos neurones, mais l'esprit est toujours extériorisé dans des objets techniques, dans ce qu'on peut appeler aussi des technologies intellectuelles. Et donc, ces technologies intellectuelles influencent en retour la manière dont nous pensons. En fait, c'est un circuit. Hein. Donc, la langue est la première des technologies intellectuelles. Et en fonction des catégories de langue que nous allons mobiliser, ben, nous n'allons pas penser de la même manière. De même, nous n'allons pas écrire de la même manière en prenant des notes avec un stylo, qu'en tapant sur un clavier avec un logiciel de traitement de texte ou qu'en demandant à une IA générative d'écrire à notre place, etc. Donc, toutes ces technologies, c'est ce qu'il appelle, lui, des technologies de l'esprit. Il parle aussi d'écologie de l'esprit, hein, en disant, bah, en fait, l'esprit est conditionné par le milieu médiatique qui l'entoure. Et donc, si nous voulons prendre soin de ces esprits, eh bien, il faut comprendre comment ce milieu médiatique fonctionne et en prendre soin également. Donc, je vous lis là encore une petite citation. Si l'esprit a un milieu qui évolue et si ce milieu est originairement technique, du silex taillé au silicium des ordinateurs, alors, de même qu'il faut se soucier de la qualité des milieux naturels afin de préserver leur fécondité future, de même, il faut se soucier de la nature des milieux psychotechniques dans lesquels naissent et se développent de futurs esprits. Donc, de même que nos corps seront affectés par par nos milieux, naturels, de même, nos esprits seront affectés par nos milieux techniques, dans une certaine mesure. Cette question-là, cette question de savoir ce que les milieux techniques et médiatiques et, comme ils les appellent, psychotechniques ou technosymboliques, hein, ça veut toujours dire la même chose, psychotechnique, ça veut dire à la fois technique et psychique, techno-symbolique, ça veut dire à la fois technique et symbolique, c'est ce qu'on appelle en fait les milieux médiatiques aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les technologies qui nous entourent et en particulier celles dans lesquelles se sédimentent la mémoire collective, donc des symboles, ça peut être des textes, des images, ça peut être des sons, des vidéos, etc. Tous ces milieux-là, en fait, vont avoir un effet en retour sur nos capacités de penser, sur nos mémoires, sur nos perceptions, sur nos imaginations. Et en réalité, cette question donc, de l'écologie de l'esprit, cette question de savoir ce que ces technologies font à nos esprits, ce n'est pas du tout une question nouvelle dans l'histoire de la philosophie, en tout cas. Et c'est une question qui date, en réalité, qui a été posée déjà par Platon. Elle avait peut-être déjà été posée avant, mais comme souvent on fait commencer la philosophie occidentale avec les travaux de Platon notamment, ce qui est certain, c'est qu'elle a été posée par Platon, cette question-là. Et elle a été posée par Platon dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre, dans lequel Platon s'interrogeait en fait sur une révolution technologique qui est celle de l'écriture alphabétique. Et on comprend beaucoup mieux les réflexions de Platon quand on les réinscrit un petit peu dans leur contexte à la fois technique et politique. Et donc dans ce texte qui s'appelle le Phèdre, qui est donc un des multiples dialogues de Platon, qui a été beaucoup commenté par un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Derrida, qui était donc le directeur de thèse de Bernard Stiegler. Donc Bernard Stiegler hérite évidemment de cette pensée. Et dans ce dialogue, Platon évoque le mythe de l'origine de l'écriture, le mythe égyptien de l'origine de l'écriture, pas le mythe grec. Et dans ce mythe égyptien, le dieu de l'écriture, qui s'appelle Teut, qui a inventé l'écriture, présente en fait son invention au roi des Égyptiens et la lui présente comme un remède qui va permettre de soigner ou d'augmenter, disons, la mémoire et le savoir, la mémoire et l'instruction. Et ou la mémoire et la connaissance. Bon, en tout cas, l'idée, c'est tout simplement de dire que grâce à l'écriture, on va pouvoir extérioriser toutes sortes de savoirs et donc on va pouvoir s'en souvenir mieux, parce qu'évidemment, nos mémoires vivantes sont faillibles, sont fragiles, donc on a toujours tendance à oublier un certain nombre de choses, on retient ce qui nous fait plaisir, on oublie ce qui nous fait moins plaisir, et puis surtout, on finit tous par mourir un jour ou l'autre, et donc notre mémoire disparaît avec nous, en fait. Alors que le fait de l'extérioriser, notamment sur des supports écrits, va permettre qu'elle se perpétue, en fait, au-delà de notre vie biologique, disons, et donc va permettre de transmettre, en fait, la mémoire collective, les savoirs, etc., de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus exacte, grâce à cette technique de l'écriture. Et donc, le roi des Égyptiens, dans le mythe, répond au dieu en lui disant « Ce que tu présentes comme un remède pour la mémoire et pour le savoir pourrait s'avérer être un poison. » Parce qu'en réalité, une fois que les individus auront extériorisé leur mémoire, ils ne feront plus l'effort de se souvenir, ils ne pratiqueront plus leur mémoire vivante, ils se reposeront sur les supports écrits, ils répéteront bêtement les savoirs qui ont déjà été extériorisés. Et comme ils n'exerceront plus leur mémoire, d'une part, ils perdront leur mémoire, c'est la première chose, parce que si on n'exerce pas sa mémoire, on finit par ne plus se souvenir. C'est ce qu'on dit souvent au sujet des numéros de téléphone qu'on a stockés dans nos téléphones et on ne s'en souvient plus par cœur. Mais d'autre part, et c'est ça le plus important à mon avis, ils n'interpréteront plus les savoirs. Parce que quand on se souvient par soi-même d'un savoir, on l'interprète à sa manière. C'est-à-dire que moi, quand je lis un livre de Platon, je l'interprète en fonction de ce que j'ai déjà lu auparavant, de ce que j'attends, de ce que je projette, etc. Quelqu'un d'autre l'interprétera complètement différemment. Donc quand on se remémore quelque chose, on l'interprète. Et donc on le diversifie, on l'individue en fait. Le savoir n'est pas figé, mais en fonction des différentes personnes qui vont l'interpréter, il va se transformer à chaque fois de manière singulière. Et c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc si on se contente de répéter ce qui est déjà stocké ou extériorisé, le risque, c'est que ce savoir n'évolue plus. Donc ça, c'est à mon avis un risque important pour Platon, même si ce n'est pas expressément mentionné dans le dialogue. Et puis le troisième risque, évidemment, pour Platon, c'est le risque de la manipulation des esprits. Pourquoi ? Parce que à l'époque où Platon écrit, il y a une catégorie de personnes qui ont pour habitude, disons, d'apprendre par cœur des savoirs qui ont été extériorisés, justement, qui ont été produits par d'autres, et de réciter ces savoirs de manière extrêmement persuasive et de se faire payer pour ça en retour. Et ces gens-là, ce sont les sophistes. Et ce sont, en fait, c'est contre les sophistes que Platon écrit ses remarques au sujet de l'écriture. Platon a écrit un certain nombre de livres consacrés aux sophistes. Il y a un dialogue qui s'appelle Le Sophiste, et puis il y a des dialogues qui s'appellent Gorgias et Protagoras, dans lesquels la question de la sophistique est explicitement posée. Et dans le Phèdre, évidemment, la question de la sophistique est posée aussi, puisque, bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais grosso modo... Le dispositif, en fait, le dialogue commence par une conversation entre un personnage et Socrate, et ce personnage vient d'écouter un discours de Lysias, qui est un sophiste, et a récupéré le discours papier, le texte, et le cache, en fait, sous son manteau, et essaye et Socrate lui demande ce qu'il a entendu, lui demande, en fait, de restituer par lui-même ce qu'il a retenu du discours. Et le personnage va essayer de lire le discours, en fait, d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, c'est toute la question de l'objectivation du savoir, de son appropriation et de sa marchandisation potentielle, puisque les sophistes, en fait, vont donner aux individus la croyance qu'ils peuvent tout simplement eux-mêmes récupérer le texte, apprendre le texte par cœur et puis paraître très savants en société. Et donc le risque, hein, c'est évidemment que tout savoir devienne finalement une sorte de rhétorique sophistique qui vide en fait le savoir à la fois de son sens et de son crédit, parce que l'une des questions aussi, le sophiste, c'est aussi celui qui est capable de défendre une chose et de défendre le contraire en fonction du public, puisque le but, c'est de séduire le public et c'est pas de rechercher la vérité. Et donc l'une des caractéristiques du sophiste, c'est aussi qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il défend quelque chose mais il n'y croit pas. Voilà. Ça, c'est très important. J'y reviendrai un peu par la suite. Donc, tout ça pour dire que, en fait, pour Platon, l'écriture, elle est très dangereuse, en fait. Enfin, pour Platon. En tout cas, dans la manière dont il raconte ce mythe égyptien de l'écriture, il pointe un certain nombre de dangers, notamment le risque de délégation, en fait, des capacités intellectuelles, mentales, psychiques à un support technique, et donc la perte, en fait, de la mémoire, hein, en l'occurrence. Deuxièmement, une forme de stérilisation de la culture collective, c'est-à-dire le fait que si on n'apprend plus, en fait, on ne va plus individuer, on ne va plus interpréter, on ne va plus singulariser la mémoire collective, et donc celle-ci ne pourra plus évoluer. Et puis, troisièmement, le risque de la marchandisation du savoir et de la manipulation des esprits par les sophistes. Et dans ce texte, le terme qui est mobilisé par Platon pour désigner la technique de l'écriture, c'est le terme de pharmakon. Et ce terme veut dire, a été traduit par... en fait, c'est le terme qui a donné en français le terme de pharmacie et qui a été traduit dans une des traductions par médicament. Et en fait, Derrida, qui commente ce texte, soutient qu'il est compliqué de traduire ce terme par médicament, parce que, en fait, en grec, le terme de pharmakon comporte la double signification du poison et du remède. Et c'est ce qu'on voit très bien dans le texte de Platon, qui dit l'écriture est présentée comme un remède qui va augmenter la mémoire, qui va permettre la transmission et la conservation du savoir, mais elle est aussi, dans le même temps, un poison. Et c'est pas dissociable, ces deux choses-là. Donc, quand Platon dit l'écriture est un pharmakon, en fait, il faut entendre, dit Derrida, le pharmakon dans cette ambivalence, en fait, dans cette ambiguïté. Il ne faut pas le dissocier en remède et poison. Et donc, c'est très important, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et j'y reviendrai peut-être aussi un tout petit peu par la suite, mais c'est peut-être un peu anecdotique ici, c'est que le pharmakon, c'est aussi un terme qui est très proche d'un autre terme, qui est le terme de pharmakos en grec, qui veut dire le bouc émissaire. Et donc il va y avoir à partir de là toute une réflexion de Derrida au sujet de Platon sur le fait que Platon, en fait, manque, enfin, ne parvient pas à reconnaître cette ambiguïté du pharmacone, parce que même s'il utilise le mot, lui-même va considérer l'écriture comme un poison pour toutes les raisons que j'ai dites, sans voir qu'il y a aussi des potentialités, et par ailleurs va en faire un bouc émissaire d'une certaine manière, va dire il faut se débarrasser de l'écriture pour la vérité, la mémoire vivante, le savoir vivant doit pouvoir se passer de l'écriture, hein, alors que toute la question de Derrida, ça va être de dire à partir du moment où l'écriture, où la technique de l'écriture peut me déposséder de ma mémoire, c'est que elle m'affecte à l'intérieur et que donc il n'y a pas de mémoire vivante indépendante disons des supports techniques. Et ça, c'est la thèse qui va être reprise par Stiegler. Bon, tout ça pour dire que, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, pour essayer d'avancer un peu, pardon, c'est que donc cette la lecture en fait de Derrida et de Stiegler de ce dialogue de Platon, elle permet de faire ressortir deux choses. La première chose, c'est une sorte d'ambiguïté ou d'ambivalence de la technique, hein, qui concerne l'écriture dans le dialogue de Platon, mais que Stiegler va étendre bien au-delà à toutes sortes de technologies, et en particulier aux technologies d'enregistrement, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, donc l'écriture, l'imprimerie, la presse, puis les technologies analogiques d'enregistrement du son, d'enregistrement des images et les technologies d'enregistrement numérique. Deuxième chose, que cette opposition en fait entre une mémoire vivante pure de toute technicité et une mémoire technique d'une certaine manière, hein, les technologies d'enregistrement, ne peut pas tenir en fait, que les deux s'affectent toujours l'une l'autre, et que la question va être de savoir comment faire pour que précisément cette co-constitution, hein, de ces deux mémoires vivantes et techniques ne soit pas toxique, ne soit pas destructrice, mais qu'elle devienne, bénéfique ou curative. Et donc, c'est à partir de ce cadre théorique-là, hein, d'une certaine manière, que moi, j'essaie d'analyser vraiment la question de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, et donc, du point de vue vraiment de ce qu'elle fait à nos esprits, au sens individuel, mais aussi au sens collectif, c'est-à-dire au sens aussi de nos cultures communes, de nos manières de vivre ensemble, de la manière dont les symboles circulent entre nous, et évidemment des rapports de pouvoir et des questions politiques que tout ça implique. Voilà, donc maintenant je vais commencer à parler un peu plus spécifiquement de cette question de l'intelligence artificielle générative, à moins que vous ayez des questions sur ce que j'ai dit jusque-là. Non, ça va, je poursuis, je ne vous ai pas endormi encore. Je ne vois pas bien si les personnes s'endorment, je ne verrai pas, donc, comme on est dans l'obscurité. Donc voilà. Alors, donc je poursuis avec, en me focalisant cette fois-ci un peu plus sur la question spécifique de l'intelligence artificielle générative. Donc la première question, évidemment, qu'on peut se poser à l'égard de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, que moi je propose de parler plutôt d'automate computationnel plutôt que d'intelligence artificielle, parce qu'en réalité je pense qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'automatisation. Disons que la première question qu'on peut se poser quand on a un petit peu en tête ces réflexions de Platon, c'est de savoir quelles sont les capacités qui vont être déléguées dans ces nouveaux automates numériques, en fait, d'une certaine manière. Ce qui me semble assez clair, c'est qu'on ne délègue plus seulement à ces dispositifs nos capacités mémorielles, mais aussi nos capacités expressives. Donc, en fait, quand vous demandez, par exemple, à ChatGPT ou à je ne sais quel autre système d'IA de générer un texte à votre place, en fait, vous abandonnez vos capacités d'expression personnelles, on va dire, à un système algorithmique. Donc, il y a une étude qui a été prépubliée par des chercheurs du MIT en 2025, que vous pouvez trouver en ligne, hein, qui s'appelle « Your Brain on ChatGPT ». Et cette étude montre que quand les personnes utilisent ChatGPT, il y a certaines zones cérébrales qui ne sont pas, Solliciter, exactement. Et en particulier les zones cérébrales qui sont liées, disons, à ce qu'ils appellent l'intégration sémantique, donc l'intégration du sens, et l'idéation créative, donc la création d'idées. Et c'est la raison pour laquelle, quand on demande à ces personnes qui se sont habituées à utiliser donc cette prothèse que constitue ChatGPT d'écrire un texte, bah, elles vont avoir beaucoup plus de mal, en fait. Elles vont devoir faire un effort beaucoup plus grand, remobiliser des zones cérébrales qu'elles n'ont pas mobilisées depuis longtemps. Et donc, ça va leur coûter beaucoup plus. Et les chercheurs parlent à cet égard de dette cognitive. Ils disent qu'il y a une dette cognitive à l'égard de la machine, parce qu'en fait, on ne peut plus s'en passer, tout simplement. Hein. On devient dépendant. Une des traductions que Derrida avait proposées pour le terme de pharmacon, c'était la traduction de drogue. Hein, parce que la drogue, en fait, c'est à la fois ce qui vous fait du bien, c'est un remède d'une certaine manière, sans quoi vous ne la prendriez pas. Hein, mais en même temps, c'est ce qui peut vous menacer, vous nuire, vous détruire complètement. Et évidemment, il y a cette notion de dépendance qui est essentielle. Donc là, on voit bien, hein, avec cette notion de dette cognitive, en fait, qu'on est face à une nouvelle forme de dépendance technologique. Et que ce sont nos activités cognitives elles-mêmes qui deviennent dépendantes d'un certain nombre d'automates computationnels, en l'occurrence, qui sont aussi, évidemment, des services numériques produits par des entreprises privées. Ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils ne sont pas inscrits dans une économie qui est, en fait, devenue assez classique dans le champ du numérique, c'est-à-dire que vous avez des services qui se développent de manière gratuite, qui permettent ainsi aux entreprises de capturer un certain nombre d'utilisateurs. Puis ensuite, elles mettent ces utilisateurs en relation avec des entreprises privées grâce à la collecte des données qu'elles vont fournir à ces entreprises privées qui vont pouvoir cibler avec de la publicité les utilisateurs. Et puis tout le monde, entreprises et utilisateurs, se retrouve un petit peu enfermé ensuite sur le service. Et c'est ainsi que ces entreprises fonctionnent, en fait. Donc la gratuité est souvent le signe d'un modèle d'affaires publicitaire plus que d'un service public généreusement offert aux usagers. Je pense que vous en avez bien conscience, mais bon, il faut toujours le rappeler. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais il y a quelques mois, OpenAI, donc l'entreprise qui a développé ChatGPT, avait annoncé son passage futur à un modèle d'affaires publicitaire. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne me suis pas renseignée sur l'actualité de ChatGPT et comment ils sont en train de mettre en place la chose, mais ça paraît effectivement très probable. Donc, tout ça pour dire qu'on devient dépendant de ces services qui sont produits par des entreprises privées, on en devient dépendant pour des activités très fondamentales qui sont celles de l'expression, notamment l'expression. Hein. Bon, voilà. C'est difficile de faire plus fondamental. Il n'y a pas une profession où vous avez besoin de savoir vous exprimer. Hein. C'est dans toutes les professions que c'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, c'est dans votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie intime, etc., votre vie intellectuelle. Enfin bon, l'expression, c'est vraiment une activité fondamentale. Et donc, tout ça pour dire que ce qui se passe aussi, ce qui se joue aussi quand on délègue ses capacités expressives, bah, c'est qu'on va déléguer en fait des capacités très singulières à des dispositifs qui sont des dispositifs fondés sur des calculs statistiques, des calculs probabilistes sur des quantités massives de données. Donc ça veut dire tout simplement que quand moi je m'exprime toujours à partir de ma mémoire et à partir de mes attentes, de mes projections, de mon imagination, donc en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai écrit, etc., et du sens que j'essaye de transmettre et des personnes à qui je parle. Donc je ne m'exprime pas de la même manière en fonction des personnes et souvent même je ne connais pas les personnes à qui je parle, donc je dois imaginer ces personnes, etc. Donc il y a vraiment un exercice de mémoire et d'imagination qui est à l'œuvre dans l'activité expressive et qui est éminemment singulier parce que votre mémoire et votre imagination, bah, c'est deux choses qui vous sont vraiment propres en quelque sorte parce que comme vous êtes des vivants, il n'y a pas deux vivants qui ont vécu la même vie. Hein. C'est le propre de la vie, rien ne se répète à l'identique deux fois. Et donc, vous avez chacun des vies différentes, hein, même les personnes avec qui vous partagez beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a des mémoires singulières, en fait, les uns les autres. Et donc, on a des expressions singulières. Et donc, on a des projections, des désirs, des attentes singuliers. Donc, il y a beaucoup de singularité, en fait, dans la manière dont nous nous exprimons, même s'il y a aussi beaucoup de synchronisation. Hein. On est obligé de partager une langue, un certain nombre de manière de faire, de vivre, etc. Mais voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces systèmes-là, ces systèmes algorithmiques, eux, ne sont pas singuliers du tout parce qu'eux, ils font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données et donc ils renforcent, en fait, des suites de signes probables. C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous avez une expression très improbable dans un jeu de données, mais que, en fait, s'il y a une occurrence de l'expression, les calculs statistiques ne vont pas retenir cette expression. Elle va disparaître, c'est le propre des statistiques. Et donc, des probabilités, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose, les statistiques et les probabilités, mais en tout cas, là, en l'occurrence, ce sont des systèmes qui font des calculs de probabilité sur l'avenir. Donc, pour que quelque chose soit prédit par ces systèmes, il faut qu'il soit probable qu'il arrive. C'est un petit peu comme les logiciels d'autocomplétion, hein, ça fonctionne sur la même base que les logiciels d'autocomplétion. Donc, quand vous savez, les logiciels d'autocomplétion, c'est quand vous faites une recherche sur Internet, vous cherchez par exemple Institut Mo, et on va vous suggérer Institut Momentum, surtout si vous l'avez beaucoup cherché avant, par exemple. Et ça, c'est parce que si on vous suggérait Institut Mo, je ne sais pas quoi, un truc complètement improbable, bah, ce serait inefficace, en fait. Hein, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça ne peut fonctionner qu'à condition de prédire du probable. Et c'est exactement la même chose qui se joue dans les IA génératives, même si ensuite elles sont entraînées, hein, et j'y reviendrai par la suite, mais ce sont des systèmes probabilistes. Et donc, à l'inverse de ce que nous faisons quand nous nous exprimons, c'est-à-dire de produire de la singularité, eh bien, en fait, elles évacuent, elles éliminent, elles liquident les singularités idiomatiques, disons. Et donc, il y a un risque, là aussi, de stérilisation, hein, de l'évolution culturelle, puisque tout simplement... vous savez sans doute que chaque champ culturel, que ce soit les arts, la musique, la philosophie, la science, etc., évolue à partir justement des bifurcations improbables. Hein. C'est quand il y a quelque chose qui sort, disons, de la norme, de la doxa, de l'opinion commune, des préjugés, des stéréotypes, que le savoir ou que l'art ou que la culture peut évoluer. C'est la raison pour laquelle souvent, quand quelque chose est très nouveau dans un champ culturel donné, on a beaucoup de mal à l'accepter, hein, on ne veut pas en entendre parler, etc. Parce que justement, c'était très improbable, très étrange, ça vient remettre en question le dogme, en fait. Hein. Et donc, la nouveauté a besoin de temps, précisément, pour faire norme, quoi, pour exercer sa normativité. Et donc, voilà, le risque, c'est que si on élimine par avance tout ce qui est singulier, tout ce qui est improbable, tout ce qui est signifiant, on ne pourra pas, en fait, tout simplement... la mémoire collective ne pourra pas évoluer. Et c'est un risque d'autant plus important, selon moi, qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de contenu généré par IA qui se répand sur Internet, évidemment, parce que c'est possible d'en générer en grande quantité de manière extrêmement rapide. Et donc, ce contenu déjà généré par IA sert de base de données pour les modèles de langage ou les générateurs automatiques d'images. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les données automatiquement générées pour s'entraîner. Or, il y a plusieurs articles scientifiques qui ont montré que quand on entraîne des modèles de langage sur des données ou des modèles d'images, hein, je ne sais pas si on dit des modèles d'images, des modèles de diffusion, je ne sais pas vraiment. Quand on entraîne des générateurs automatiques de texte ou des générateurs automatiques d'images sur des données déjà produites automatiquement, eh bien, la qualité se dégrade. C'est-à-dire que vous ne renouvelez pas la qualité des données. Donc, à force, ça fait des calculs de probabilité sur des contenus déjà probabilistes, etc. etc. Donc, il y a une dégradation de la qualité. C'est ce qui s'appelle, c'est ce que certains chercheurs ont appelé le model autophagy disorder, donc le désordre autophagique des modèles, quoi, qui se mangent eux-mêmes et qui se self-consume, donc qui s'auto-consume, quoi, d'une certaine manière. Et donc, ça, dans un vocabulaire un peu... Stiglerien, quoi. Moi, je reprends la notion Stigler parlait d'anthropisation informationnelle, et je pense qu'en fait, on peut parler de systèmes qui sont anthropiques, au sens où plus vous allez les utiliser, plus vous allez produire de contenus automatiques, plus ils vont se nourrir des contenus automatiques, plus ils vont produire des contenus de mauvaise qualité, et donc moins bien ils vont fonctionner. Donc plus vous les faites fonctionner, moins bien ils fonctionnent. Donc en fait, plus ils fonctionnent et plus ils détruisent leurs conditions de possibilité. Hein. Et donc, dans un sens...
Ils s'auto-intoxiquent,
exactement, c'est ça. Et ils s'auto-consomment, quoi, voilà. Et donc, dans une acception très, très large de ce concept d'entropie, hein, tel que Stigler le reprenait en l'extirpant un peu de son sens thermodynamique premier, un système qui ne prend pas soin de ses conditions de possibilité de renouvellement, c'est un système qui peut, en ce sens-là, être défini comme anthropique. Et en fait, c'est ce qui se manifeste de manière un peu, on va dire, ce qui se manifeste de manière un peu symptomatique à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'AI slop. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est de la bouillie IA. Donc, les contenus IA qui envahissent Internet et qui n'ont aucun intérêt, qui sont non pertinents, insignifiants. Et donc, par exemple, sur les plateformes de musique comme Spotify ou comme YouTube, vous allez avoir beaucoup de contenus comme ça, automatiquement générés par de l'IA, qui vont être recommandés massivement par les algorithmes de ces plateformes. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de payer, ils n'ont pas besoin de rémunérer les créateurs de contenu, hein, puisque c'est ça, ils peuvent produire eux-mêmes avec de l'IA des contenus musicaux ou vidéo et les amplifier massivement. Et donc, ça va prendre le dessus hein, potentiellement sur les contenus de qualité. Alors, quand on parle de Spotify ou de YouTube, on peut se dire, bon, c'est pas très grave, ça concerne que les gens qui regardent Spotify ou qui regardent YouTube. Moi, je regarde pas Spotify, je regarde pas YouTube, donc ça va. Mais le problème, c'est que ça concerne aussi maintenant même le champ de la recherche scientifique. C'est-à-dire que vous avez des colloques, des conférences en sciences. C'est arrivé notamment dans le champ de l'intelligence artificielle générative, justement, où vous allez avoir un surplus de propositions de communication qui ont toutes été, pas toutes, mais qui en grande partie ont été générées par IA. Et les personnes qui organisent les conférences ne sont pas assez nombreux, donc vont faire appel à de l'IA pour évaluer des propositions qui ont elles-mêmes plus ou moins été générées par IA. Si bien que les quelques chercheurs qui avaient joué le jeu de faire une proposition vont avoir une review, donc un retour sur leur proposition avec des citations, si vous voulez, de leur article, qui en fait n'était pas dans leur article, puisque c'est une IA qui a évalué, donc elle invente tout et n'importe quoi, comme on sait. Enfin, elle n'invente rien, mais elle génère des choses vraisemblables, mais qui n'ont parfois aucun rapport avec la réalité. Et donc, il y a un véritable problème qui se pose dans le cadre des processus d'évaluation par les pairs et de certification par les pairs qui sont absolument au fondement de tous les savoirs. Donc, des savoirs technologiques comme ceux de l'intelligence artificielle, mais aussi des savoirs philosophiques et aussi des savoirs comme la médecine, par exemple, la biologie, etc. Donc, le problème de l'IA Slop pourrait être assez grave. Voilà. Et on retrouve, vous voyez, toujours cette intuition aussi qui était déjà dans le texte de Platon, hein, d'une forme de stérilisation de l'évolution culturelle, en fait, hein, et d'uniformisation, de standardisation, et surtout une forme de noyade, en fait, des singularités, des contenus pertinents et signifiants sous ces contenus automatiquement générés. Pour passer au troisième volet qui était aussi une des questions évoquées par Platon, il y a évidemment des risques en termes de manipulation avec ces dispositifs-là. Alors non seulement évidemment les textes et les images qui sont générés automatiquement ne sont pas, disons, les systèmes d'IA générative, évidemment, ne croient pas en ce qu'ils disent ou en ce qu'ils montrent ou quoi que ce soit, hein, et peuvent défendre une thèse et la thèse contraire. Vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. De toute façon, en général, ils sont toujours d'accord avec vous. Hein, donc, si vous changez d'avis, ils seront d'accord aussi pour changer d'avis. Donc, en ce sens, c'est vraiment très proche de la logique sophistique de manipulation du langage. Mais plus fondamentalement, en fait, ces dispositifs sont aussi, comme je le disais aussi un peu tout à l'heure, sont pétris de toutes sortes d'idéologies, parce que ce ne sont pas seulement des systèmes probabilistes. Ils ont aussi été entraînés selon un certain nombre de critères qu'on ne connaît pas forcément et par des entreprises privées, hein, donc de manière opaque, les utilisateurs n'ont pas été consultés. Et donc, en fait, vous allez avoir certaines catégories de langage qui vont être valorisées plutôt que d'autres, etc. Et certaines images qui vont être valorisées plutôt que d'autres. Par exemple, j'ai des collègues qui ont fait une petite expérimentation. Ils essayaient de faire générer, je crois que c'était à Midjourney. Il faut absolument que je vérifie parce que j'oublie à chaque fois le système d'IA qu'ils ont utilisé. En tout cas, c'était un système de génération automatique d'images. Et ils voulaient lui demander de générer des particules de plastique dans l'océan qui étaient ingérées par les poissons pour illustrer un des effets, disons, de la crise environnementale et la manière dont les déchets humains se répercutent sur nos environnements naturels, nos écosystèmes. Et en fait, ils expliquent que c'était très difficile de faire générer ce type d'image par la machine parce qu'elle avait beaucoup plus tendance à générer, par exemple, des couchers de soleil dans l'océan, des îles un peu tropicales, kitsch, etc. Parce que tout simplement, en voyant ce travail, je me suis dit, en fait, le déni et le climato-scepticisme humain trop humain, bah, il se retrouve évidemment dans ces technologies. Hein, de même que, voilà, il ne faut pas s'étonner que le climato-scepticisme soit si répandu quand on voit qu'il y a quelques acteurs industriels majeurs qui payent pour faire circuler des contenus climato-sceptiques sur les réseaux et que ça, c'est très bon pour les modèles d'affaires de Facebook et de Google, hein, comme l'a montré un rapport de du Center for Countering Digital Hate qui date de, je crois, 2021 ou je ne sais plus, 2020 peut-être ou 2022, je ne sais plus, mais vous pouvez trouver ça en ligne, c'est frappant, quoi. Donc voilà, donc en fait, nos opinions collectives, nos manières de voir le monde, elles vont être aussi configurées par les symboles qui vont être, on va dire, rendus visibles ou invisibilisés par ces machines-là. Hein. On sait que les catégories de langage conditionnent nos catégories de pensée. Donc, si on commence tous à parler de la même manière que ChatGPT, Grok, Gemini, Claude ou je ne sais quelle IA générative, ça risque d'affecter très en profondeur aussi nos manières de voir le monde. Et il y a aussi des études qui ont été publiées pour montrer que des scientifiques qui avaient utilisé ces systèmes pour générer, enfin pour écrire leurs articles, ont, bah en fait, dans leur communication orale, ils récupéraient des catégories qui avaient été très valorisées, par, en l'occurrence l'étude porte sur ChatGPT, par ChatGPT. Et enfin, c'est assez évident, hein, mais disons qu'il y a une contamination d'une certaine manière, hein, des catégories générées par la machine sur les catégories mobilisées par les humains. Et même chose pour la génération automatique de son et pas pour la génération automatique de texte. Mais il y a une étude aussi qui a montré que la manière dont les IA parlaient, parce qu'il y a des systèmes de génération automatique de paroles, quoi, de son, allaient affecter aussi la manière dont les humains parlaient. En particulier, c'est les humains dialoguent avec leur IA. Hein. Bon, voilà. Enfin, dialogue, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, s'adressent à leurs IA. Voilà, donc évidemment, ça, c'est un risque. On pourrait mobiliser ici la catégorie aussi stiglerienne de psychopouvoir, hein, donc un pouvoir exercé par les technologies sur nos esprits. Hein, c'est ce que Stigler a beaucoup décrit. Et puis, en dernière instance, évidemment, et c'est une chose très évidente désormais, mais ces technologies vont aussi générer massivement des contenus faux, des contenus truqués, des contenus trafiqués, et donc amplifier, bien sûr, les risques de désinformation sur les réseaux, et plus fondamentalement, la possibilité même de croire, en fait, en ce qu'on voit, ou en ce qu'on entend, ou en ce qu'on lit, parce que, à force de s'habituer, enfin, je veux dire, on va finir par s'habituer à ne plus pouvoir savoir si le texte a été généré par une IA, si l'image a été générée par une IA, si la vidéo a été générée par une IA. Et on va savoir petit à petit, on va intérioriser le savoir de notre non-savoir, quoi. On va intérioriser le fait qu'on ne peut pas distinguer. Et donc là, le risque, c'est de tomber dans une situation de défiance, en fait, où on ne peut plus rien croire, d'une certaine manière. Or, si on ne peut plus rien croire, on ne peut même plus se parler, on ne peut même plus échanger. Hein. Il y a une espèce de foi primordiale qu'on est obligé de s'accorder les uns aux autres si on veut pouvoir ne serait-ce que communiquer, quand bien même, voilà, on ne serait pas d'accord, etc. Mais, donc c'est une chose de pouvoir être trompé, et dans une certaine mesure, la tromperie n'a pas attendu l'IA générative pour exister, hein, puisque les sophistes aussi trompaient leur public d'une certaine manière, et qu'il y a des fausses informations depuis bien longtemps, évidemment du temps de la télévision, même du temps de la photographie, etc. Enfin bon, je veux dire, tout ça n'est pas du tout nouveau, en fait, ça se transforme à chaque transformation technologique ou médiatique, mais c'est pas nouveau. En revanche, il y a des questions d'échelle et de rythme qui, moi, me semblent vraiment fondamentales et pas négligeables, en fait, qu'on peut pas comme ça évacuer. Et effectivement, si on est... Enfin, je veux dire, à partir du moment où tout peut être une fausse information ou une information truquée, là, il y a un doute qui risque de s'installer. Voilà, donc ça, c'est en fait un peu le troisième, si je puis dire, le troisième risque qui était déjà évoqué par Platon également, hein, la question de la manipulation politique, sachant que ces IA elles-mêmes peuvent être manipulées. Hein, il y a des sites de désinformation, des sociétés de désinformation qui produisent des faux sites de propagande qui sont faits pour attirer les IA, hein, donc qui ne sont pas faits pour être lus par des humains, mais qui ont vocation à ce que les IA viennent chercher, viennent piocher comme ça des données dans ces sites et puis les recrache sous forme de contenu. Donc du coup, il y a une, beaucoup de couches de tromperie et de manipulation possibles. Bon, une dernière chose qui là, pour le coup, n'est pas vraiment, disons, enfin, est peut-être un peu moins fondamentale, je ne sais pas, enfin, quoique c'est tout aussi fondamental. Mais un dernier problème, disons, avant de peut-être donner quelques perspectives quand même d'alternatives et de pistes, en fait, de leviers qu'on peut activer pour éviter ces risques-là. Peut-être une dernière question que je voulais évoquer, qui me semble très importante, mais pas exactement sur le même plan, enfin, je ne sais pas, c'est le développement assez actuel et, à mon avis, assez rapide des start-up ou des industries qui produisent ce qu'ils appellent des compagnons virtuels ou des compagnons IA et la manière dont certaines personnes vont... se rapporter comme ça à des dispositifs algorithmiques et les prendre en les prenant pour des humains, en les prenant pour leurs semblables, pour leurs prochains, en s'adressant à elles en tout cas de cette manière-là. Et donc vous avez sans doute entendu parler de cas qu'on appelle des psychoses IA, donc des personnes qui sont tombées amoureuses de leur chatbot ou alors ont perdu tout contact avec le monde réel parce qu'ils s'étaient enfermés dans une sorte de bulle avec leur assistant ou leur compagnon ou leur agent conversationnel qui les enfermait un petit peu en boucle avec eux-mêmes. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui va devenir fondamental dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la question des réseaux sociaux et de savoir s'il faut les interdire au moins de 15 ans ou pas, etc. Débats qui sont souvent très, très mal posés, mais disons que je pense qu'en tout cas, ce type de débat, il devrait aussi nous inciter à poser les mêmes types de questions pour les chatbots, parce qu'on est face à des dispositifs qui sont un peu de la même mouture, si je puis dire, puisque de même que dans les réseaux sociaux, vous allez avoir, par exemple, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire des fonctionnalités trompeuses qui sont mises en œuvre pour vous maintenir connecté à la plateforme. Par exemple, le fait de pouvoir faire défiler des contenus de manière infinie, donc de ne jamais arriver en bas d'une page, donc de ne jamais avoir à rouvrir une nouvelle page. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée pour maintenir les individus connectés, en fait. Bah, de même, là, vous allez avoir des fonctionnalités du type le fait que le chatbot va toujours vous relancer, donc va vous dire « Ah, n'as-tu pas d'autres questions ? Ne veux-tu pas plus de renseignements sur ce sujet ?» pour, encore une fois, vous maintenir connecté. C'est pas qu'il a envie de parler avec vous, hein, c'est que l'entreprise, elle a envie que vous restiez connecté pour pouvoir augmenter sa valeur en bourse. Par exemple, pour prendre un autre exemple, le fait que quand vous êtes sur un réseau social aussi, vous allez souvent vous voir recommander des contenus qui sont semblables à ce que vous avez déjà vu. C'est ce qu'on a appelé les chambres d'écho, les bulles informationnelles, etc. Bah, de même, ici, dans le cas des chatbots, vous allez avoir... Des techniques de flagornerie ou de flatterie qui vont toujours dans votre sens, qui vous disent que vous êtes formidable, etc., qui vont vous chercher des informations qui confirment les opinions que vous avez exprimées. Et donc, en fait, ces mécanismes-là, bah, ils contribuent à une sorte d'enfermement des utilisateurs et aussi, ils jouent sur une forme de dépendance émotionnelle, en fait. Parce qu'évidemment, ça joue sur des besoins de reconnaissance social, on a besoin qu'on nous dise qu'on est incroyable, que nos idées sont formidables, etc. Et c'est tendance un peu narcissique aussi. Hein. Y a évidemment le fait aussi qu'il parle à la première personne du singulier et donc qui nous incite en fait à croire qu'on a quelqu'un en face de nous. Et ça, c'est une sorte de jeu sur une tendance un peu anthropomorphique que nous partageons tous, hein, comme le jeu. Dans la vie de tous les jours est associé à la réflexivité, disons, à la capacité de faire référence à soi-même. Par exemple, les enfants ne disent pas « je » tout de suite. Hein, c'est lié à un certain moment du développement psychique où la capacité de dire « je », la capacité de faire référence à soi-même devient possible. Évidemment, quand vous dialoguez sur une interface qui ressemble beaucoup à une interface de messagerie instantanée avec un dispositif automatique, mais que vous n'avez aucune idée de comment tout ça fonctionne et qu'il y a... un jeu qui apparaît, bah vous allez tendance à dire tu et puis à commencer à interagir comme si vous étiez en face de quelqu'un en fait. Et puis alors en plus il y a des choses plus subtiles parce que dans le cas de ces chatbots, il y a des parfois par exemple vous êtes en train de discuter et puis il y a trois petits points qui apparaissent comme si il y avait quelqu'un en face de vous qui était en train de répondre à votre message. C'est exactement le design des messageries instantanées sur les téléphones qu'utilisent toutes les jeunes générations, quoi, puis même les moins jeunes. Donc, en fait, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous écrire en face parce que d'habitude, c'est le signal qui vous dit que la personne est en train d'écrire en face, vous voyez. Donc, tout est très bien fait là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on devient en fait complètement dépendant potentiellement de ces dispositifs et c'est ça le risque. Hein. Et donc, moi, j'ai un peu développé aussi dans mon livre les questions anthropologiques qui sont en jeu là derrière, parce que je pense que d'un point de vue psychanalytique, il y a vraiment beaucoup à dire, notamment le fait que, à qui est-ce que l'on parle quand on s'adresse comme ça à ce type de machine. En fait, on s'adresse à une sorte de reflet algorithmique de nous-mêmes, donc on nous renvoie en permanence en fait des réponses par rapport à ce qu'on a demandé, par rapport à nos données, etc. Et donc on prend en fait un reflet algorithmique de nous-mêmes pour une autre personne. On s'adresse à la deuxième personne du singulier, etc. Un peu comme si vous vous regardiez dans le miroir le matin, puis que vous disiez « Coucou, comment tu vas ? Donne-moi des conseils sur je sais pas quoi. » Vous voyez, non, mais c'est littéralement ça. Hein. Et certaines personnes en tombent même amoureux. Donc ça renvoie vraiment, ça fait vraiment écho. On connaît tous quelqu'un qui a pris son reflet pour quelqu'un d'autre et qui est tombé amoureux de son reflet. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien fini, quoi. Dans le mythe, Narcisse finit quand même par se suicider. Et là, en l'occurrence, il y a quand même plusieurs plaintes aux États-Unis, qui ont été déposées, contre OpenAI et contre CharacterAI. Donc CharacterAI, c'est une entreprise de compagnons virtuels, justement, parce que il y avait eu des incitations au suicide pour des jeunes qui étaient dans une forme de mal-être, qui avaient demandé conseil à leur chatbot, et leur chatbot leur a montré comment écrire une bonne lettre de suicide, leur a dit que c'était pas vraiment la peine d'aller en parler à leurs proches parce qu'ils les connaissaient mieux que leurs proches et que tout allait bien se passer. Donc du coup, il y a un rapport a été publié toujours par le même centre, hein, Center for Countering Digital Hate, vous pouvez trouver ça en ligne, qui s'appelle Fake Friend, qui documente en fait la manière. Donc voilà, quand vous demandez ceci ou cela à ChatGPT, au bout de, je sais pas, 30 minutes, il vous envoie une lettre pour une lettre d'adieu à écrire, il vous donne une technique pour comment faire pour vous suicider, etc., etc. Donc c'est, en fait, je veux dire, c'est pas seulement des accidents, c'est aussi structurellement, enfin voilà, de même que TikTok a tendance à recommander des contenus toxiques aux jeunes qui sont psychiquement vulnérables, de même, ces dispositifs ont tendance à profiter et à exacerber les vulnérabilités psychiques. Voilà un petit peu pour les risques qui me semblent ouvert en fait par la génération massive de ces IA génératives en termes évidemment d'esprit individuel et collectif. Hein. Je ne parle pas de toutes les questions environnementales et écologiques qui sont évidemment très présentes, et je ne parle pas non plus des risques en termes d'exploitation du travail humain parce que, comme on sait, ces dispositifs ne peuvent fonctionner qu'à condition évidemment d'exploiter un certain nombre de travailleurs du clic. Donc je n'ai pas parlé de ces questions parce que je ne peux pas parler de tout, et par ailleurs il y a d'autres chercheurs qui les ont étudiés vraiment beaucoup mieux que moi. Donc voilà, alors par rapport à ça, juste quelques pistes et puis après je vais m'arrêter, juste quelques pistes pour essayer d'affronter ces risques et puis d'ouvrir d'autres perspectives en fait, parce que donc encore une fois moi je tiens beaucoup à une distinction que posait Bernard Stiegler, qui est la distinction entre adaptation et adoption à un milieu technique, ou un milieu technologique ou industriel. Stiegler soutenait qu'il ne s'agit pas de s'adapter aux services numériques dominants qui nous sont proposés massivement et gratuitement, mais qu'il s'agit d'adopter le milieu, c'est-à-dire de le transformer, en fait, et d'en faire un milieu qu'il aurait sans doute appelé un milieu associé, mais disons un milieu habitable, désirable, bénéfique, en fait, d'un point de vue individuel et collectif. Et il me semble que dans le champ de l'IA générative, cette adoption, elle passe au moins par quatre grandes disons, elle implique au moins quatre dimensions. D'une part, une dimension d'encadrement politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de loi, de régulation pour limiter en fait la toxicité d'un certain nombre de dispositifs. D'autre part, elle passe aussi par des alternatives technologiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut développer pour en termes de technologie qui ne soit pas fondée sur les mêmes mécanismes de captation de l'attention, de captation de l'attachement, de dépendance cognitive, de dépendance émotionnelle, d'économie aussi, de collecte des données, etc., et de contrôle. Évidemment, par une question de culture, donc ce que Simon Don appelait la culture technique, mais moi, je préfère parler de culture technopolitique parce que je pense qu'en fait, la culture technique, au sens de Simon Don à proprement parler, ne suffit plus aujourd'hui, parce que Simon Don parlait vraiment de la compréhension du fonctionnement des systèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de comprendre comment ça fonctionne. Il faut aussi comprendre ce que ça fait, quoi, d'un point de vue psychique, social, politique. Et puis bon, la quatrième dimension, c'est l'économie, mais là, je ne vais pas du tout en parler. Et de toute façon, je vais aller très vite sur les trois. La première chose au sujet de l'encadrement politique, c'est simplement pour rappeler que on dit souvent, en fait, que l'écriture, Platon se serait trompé parce que l'écriture, en fait, a permis effectivement la transmission des savoirs, ne nous a pas tous rendus idiots, etc. Mais en fait, les bénéfices de l'écriture ont été rendus possibles par les organisations sociales qui ont permis la transmission justement de l'apprentissage des techniques de l'écriture et de la lecture, par exemple l'école, l'académie comme Platon l'avait fondée, et donc une forme de culture en fait de cette nouvelle technique, donc une appropriation citoyenne et collective de cette nouvelle technique, et par ailleurs des institutions politiques comme la police, etc., donc disons la cité, politique, donc la publication des lois pour tous et toutes qui ont appris à lire et à écrire, donc enfin tous et toutes les citoyens, hein, parce qu'en fait je dis tous et toutes par réflexe, mais c'est tous, parce qu'en Grèce les femmes elles sont pas citoyennes, hein, donc c'est seulement les citoyens évidemment qui pouvaient lire et comprendre la loi et la critiquer, etc. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas l'écriture qui a rendu possible cette organisation politique de la cité. C'est que, d'une certaine manière, elle l'a rendu possible. Mais comme elle a rendu possible aussi l'appropriation par les sophistes et la manipulation des esprits. Donc, c'est plutôt que ces institutions, en fait, ont réussi à se développer à partir de ces nouvelles techniques pour les mettre au service du plus grand nombre, en fait. Et ne pas les laisser entre les mains de quelques acteurs privés. Que ce soit sur le plan de l'éducation, hein, où il va s'agir, en fait, pour chacun, chacune, d'apprendre à écrire, à lire, etc., pour pouvoir se rapporter différemment à cette technique et peut-être avoir un esprit critique et ne pas se laisser absorber par les discours complètement magiques des sophistes. Hein. Et puis, d'autre part, sur le plan politique aussi, hein, il s'agit de faire en sorte que l'écriture soit mise au service de la publication de la loi devant les citoyens, de la possibilité pour ces citoyens de critiquer la loi, etc., et non pas qu'elle soit accaparée par un pouvoir qui va la garder, quelques acteurs qui vont garder cette technique entre leurs mains et exercer leur pouvoir sur les autres. Donc tout ça en fait implique évidemment qu'il y ait une sorte d'adoption culturelle et sociale et politique du milieu technique. Et c'est vraiment la théorie de Stigler, qui est aussi la théorie d'un juriste qui s'appelle Alain Supiot, dans une certaine mesure, hein, qui soutient que le droit a pour fonction d'humaniser la technique, en fait. Hein. Et donc, les institutions sociales, les institutions juridiques, les institutions culturelles, elles arrivent toujours après coup, puisque les transformations techniques ne sont pas contrôlables, anticipables, mais elles arrivent pour justement localiser ces technologies, les adopter, les transformer et les mettre au service du plus grand nombre. Hein. Alain Supiot prend l'exemple de l'électricité, me semble-t-il, enfin de la lumière artificielle, qui, dans un premier temps, au moment de la révolution industrielle, a permis évidemment de faire travailler les enfants dans les mines pendant la nuit parce qu'on pouvait éclairer, alors qu'avant on ne pouvait pas éclairer, donc on ne pouvait pas exploiter les travailleurs la nuit. Et le droit du travail, qui est le fruit de luttes, de combats, etc., a servi notamment à empêcher les excès en fait, auxquels nous pousse nécessairement hein, la démesure, auxquels poussent les progrès, entre guillemets, ou les avancées, les développements technologiques, en particulier quand ils sont détenus par des acteurs qui cherchent à augmenter leurs profits dans un système capitaliste, en particulier. Donc, le point important, si vous voulez, c'est qu'ici, on est dans une phase, aujourd'hui, disons plutôt, on est dans une phase de transition où ces technologies se développent extrêmement vite. C'est ce que Stigler appelait la disruption. Et c'est effectivement très difficile d'adopter et d'imaginer qu'un encadrement politique est possible. En même temps, je crois qu'il est nécessaire de ne pas... de ne pas croire que tout ça relève d'une sorte de fatalité technologique ou industrielle. Et il y a effectivement des pistes de régulation et d'adoption possibles. Par exemple, une chose très simple, on le voit bien d'ailleurs comment le débat public a évolué autour des réseaux sociaux récemment. Hein. Maintenant, à l'époque, quand vous critiquiez Facebook ou autre, c'était vraiment pas bienvenu. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ces systèmes sont extrêmement toxiques, notamment pour la santé mentale des jeunes. Et donc, il faut poser des limites. Aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer, par exemple, dans le cas des intelligences artificielles dont je vous parlais tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer qu'on interdise le fait qu'elle parle à la première personne du singulier, par exemple. Donc déjà, ça éviterait peut-être qu'il y ait, des milliers de personnes qui commencent à leur demander des conseils de développement personnel ou autre. Hein. Et puis, on pourrait aussi exiger, par exemple, qu'elles montrent leurs sources, les sources où elles sont allées chercher les informations par défaut. Ce qui permettrait aussi d'avoir un regard un regard complètement différent sur les réponses qu'elle donne, parce qu'on pourrait aller voir les sources, etc., directement. Et puis, on pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin. On pourrait imaginer que chacun puisse paramétrer, en fait, à sa manière, ce type de dispositif, en choisissant comment il s'adresse à lui, qu'est-ce qu'il lui montre, sur quel jeu de données il va chercher ses informations, etc. Et surtout, on pourrait imaginer que plutôt que de développer massivement d'énormes modèles de langage qui s'entraînent sur d'énormes quantités de données et qui peuvent répondre à tout et n'importe quoi en racontant à peu près tout et n'importe quoi, on développe des petits modèles beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus spécifiques, sur des jeux de données beaucoup plus contrôlés qui fonctionnent pas avec des énormes data centers énergivores, quoi, hein, mais qui puissent tourner localement sur des serveurs locaux, etc. Donc il y a en fait des enjeux de politique industrielle là derrière qui sont très importants et qui pourraient rendre ce milieu technologique et industriel complètement différent. De même, il y a toutes sortes d'alternatives numériques à imaginer, et notamment des alternatives qui vont dans le sens plutôt de la, non pas, disons, de l'automatisation, mais de la contribution collective, hein, donc non pas faire à la machine la même chose que nous à notre place, mais plutôt nous mettre en relation ensemble. C'est ce que fait par exemple une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, qui permet la contribution collective de toutes sortes de personnes et la construction, la co-construction de savoir, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est que Wikipédia, comme elle va permettre en fait l'expression singulière d'une diversité de personnes, va permettre aussi des discussions collectives, des processus de certification par les pairs, et donc de générer des contenus qui ont du crédit d'une certaine manière, hein. Alors que un dispositif comme ChatGPT, c'est l'inverse, ça génère des contenus probables, mais la probabilité n'est pas la vérité, c'est souvent le contraire, la vérité est très improbable. Donc on a là deux dispositifs qui fonctionnent complètement différemment, qui sont bien des dispositifs algorithmiques d'une certaine manière, hein. Wikipédia est une sorte de réseau social, mais qui n'a pas du tout le même modèle économique, évidemment, qui n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs. Et par ailleurs, moi je travaille également avec une association qui s'appelle Tournesol, qui développe des algorithmes de recommandation collaboratifs qui permettent de recommander des contenus pertinents, des contenus qui ont été évalués par les pairs et qui ont été jugés pertinents, qui ont été jugés d'utilité publique. Et donc l'algorithme, au lieu de suivre l'agenda économique, par exemple, de TikTok ou de Facebook ou de X, il va recommander des contenus qui ont été en fait évaluées par les pairs et certifiées par les pairs. Donc ça, dans un contexte de IA SLOP, là, dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment fondamental d'avoir des dispositifs qui vont permettre de faire de la sélection de contenus pertinents, sinon on va être complètement noyé. Bon voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer. Et enfin, cette question de la culture technique, évidemment, elle est fondamentale parce que on est encore dans une... disons, dans une situation où on manque cruellement tous et toutes de compréhension de ces systèmes et surtout de compréhension de leurs enjeux et de l'économie politique qui est derrière. Et là, pourtant, je pense que c'est un levier très important pour les générations futures et que intégrer ce type de programme de culture technopolitique dans les classes, au collège, au lycée, etc., ça peut être vraiment non seulement très intéressant, mais surtout, ça peut permettre aussi de reconnecter les enseignements et les cursus et les parcours scolaires avec des réalités très, très contemporaines, hein, plutôt que de se demander si il faut utiliser ChatGPT ou pas pour faire ses devoirs, parce que c'est à peu près ça le niveau du débat. Eh bien, on pourrait plutôt se demander comment faire pour que cette culture technique, technologique, en fait, critique, soit intégré dans les parcours scolaires au lieu d'essayer de faire entrer les technologies dans les classes, hein, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, parce que en fait, ce n'est pas des technologies neutres, encore une fois, c'est des services privés, hein, donc ça revient un petit peu à se demander si il faudrait, enfin, je sais pas, faut-il utiliser ChatGPT en cours. Pour moi, ça ressemble un peu à faut-il manger du McDo à la cantine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une question qui n'est pas du tout assez élaborée, hein. Donc, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut poser le problème. Je pense que la question, c'est vraiment pas une question d'équipement technique, mais une question de culture, justement. Voilà. Donc, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention et puis à disposition pour échanger. Voilà.
Bravo.